présentons dans la série d'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur.
Alors, Vincent aimerait se coucher. Un petit mec, tout maigre, cheveux noirs, long, s'approche de fruitier et lui dit « J'en ai, tu en veux ?»« Oui ?» Elle demande à Vincent « Toi aussi ?» Vincent lui demande « Quoi ?»« De la blanche, allez, comme tout le monde, prends-en un. » Deux. Il lui donne le paquet et dit le prix. Elle demande à Vincent, tu peux les payer? Vincent s'exécute puisqu'il le faut. Elle lui dit, bon, on va chez moi. Bon, je te raccompagne. Elle l'amène rue des Capucins, s'arrête devant un immeuble et lui dit, j'habite ici, tu montes? ça fait tard. Viens, allez, va. Ne me laisse pas seul avec les paquets. Viens. Ils entrent dans l'immeuble. Il monte jusqu'au troisième étage d'un immeuble rustique. Il va ouvrir la porte. Une grande pièce vide. La lumière de la rue l'éclaire. Parquet sale, pas verni, des cartons dans des coins, sur un carton une bougie. Elle le fait asseoir à terre, en tailleur, devant le carton où se trouve la bougie allumée. J'ai plus d'électricité, coupé. Tu veux encore de la bière? On prépare ça. Elle pose les deux doses sur le carton à côté des bougies. Non, j'ai plus soif et je ne veux pas de drogue. Elle le regarde bien et lui dit. Mais pas comme tout le monde, toi. Tous les jeunes le font. T'es pas drôle. Mais d'où tu viens? Elle se pend au cou et lui dit. Tu verras, après on pourra faire l'amour. Faire l'amour avec ça, c'est extra. J'aime mieux pas. Elle lui dit. Ne sois pas bête, tout le monde le fait. Et tu dois le faire. Bon, autrement on va se foutre de toi si tu ne le fais pas. Alors, c'est oui? Tous les garçons aimeraient être à ta place, tu sais. Dis oui. Elle l'embrasse sur la joue. Il dit oui. Elle se lève pour aller chercher ce qu'il faut. S'est introduit dans sa veine, façon s'est senti mal, mais il n'a rien dit. Elle s'est piquée et s'est avachie. Petit à petit, façon a perdu connaissance. Il s'est senti planer, puis a eu l'impression que son fluide de vie partait. Vue trouble, rouge, blanc, noir, son corps a palpité. S'est piqué et s'est avachi. Petit à petit, Vincent a perdu connaissance. Il s'est senti planer, puis a eu l'impression que son fluide de vie partait. Vue trouble, rouge, blanc, noir, son corps a palpité. Thank you. été appelé par la police. Il a été mené au service des urgences d'un hôpital. Vincent est mort d'un arrêt du corps. Lorsque la fille a repris connaissance, elle a trouvé inanimé, a appelé les pompiers. Emile a été interrogé par la police, la famille de Vincent prévenue. Emile s'est effondré. Emile se dit que c'est la faute de cette petite garce. Elle l'a forcé à se piquer pour faire comme tout le monde. Je suis sûr que lui ne le voulait pas. Elle l'a bien forcé. Toujours la conspiration des gens. Il faut qu'ils forcent les autres à rentrer dans le moule qu'ils veulent. Je n'ai pas de chance. Je t'aime et tu n'es plus. Émile est très triste, ne parle plus. Il va se consoler chez Valérie. Les jours passent. Un après-midi de printemps, Pierre et Valérie se promènent au parc. Il fait doux et beau, se sentent bien, s'assoient sur un banc pour s'embrasser. Juste à ce moment, passe par hasard Émile qui les voit. Cela lui fait mal. Eux aussi l'ont vu et ont vu qu'ils ont été vus. Valérie honteuse se dégage de l'étreinte de Pierre, qui se lève pour aller vers Émile. Pierre lui dit, surpris, « Mais ce n'est pas grave, ce n'est que mon père. » Elle lui dit paniqué, « Justement ?» Il se lève et court vers Émile, le rattrape. « Émile !» Pierre ne comprend rien, va vers eux. Il entend qu'elle dit, « Émile, je t'en supplie, ne fais pas cette tête. » Émile lui dit, « Décidément, je n'ai pas de chance avec l'amour. » Et il les quitte. Il le regarde partir, droit, raide, silhouette triste. Valérie pleure. Pierre comprend tout et lui dit, « Tu avais le père aussi, il te fallait toute la famille. » Et il se sauve. Elle reste en pleurs, en le regardant dans la direction. Où est parti Émile. Son bureau, il a fini ses souvenirs. Toute la nuit, il a revu sa vie. Le jour se lève et éclaire la pièce. La porte s'est ouverte. C'est sa femme en robe de chambre beige. Elle s'approche de lui. Elle lui demande « Pourquoi as-tu passé toute la nuit dans ton bureau ? Comment t'en es-tu aperçu ?» J'ai entendu entrer hier au soir, mais pas entendu entrer dans ta chambre. Elle va prendre une chaise pour s'asseoir près de lui. Il lui dit, « Qu'as-tu fait durant toute cette nuit ? » J'ai pensé à ma vie, revécu ma vie. Et alors ? Je me suis aperçu qu'il y avait un grand vide. Comme si l'essentiel n'y était pas. Et qu'est-ce ? L'amour. L'on m'a tout pris. Elle soupire et lui dit, l'amour, est-ce que tu crois que moi aussi, je ne souffre pas du manque d'amour ? De toute notre vie ensemble, tu ne m'as aimé que quelques mois. J'ai souffert du manque d'affection, moi aussi. Je t'ai aimé et t'aime encore. Tu as souffert du manque d'amour, mais tu as fait souffrir de ton manque d'amour. Il est surpris, sent amer et coupable, ému. Il lui prend les mains et lui dit, je demande pardon, je t'aime, mais je n'ai jamais pu te le montrer. Il l'embrasse sur les lèvres. Il a entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'est ouverte. Il lui dit, j'ai parlé à mon fils. Dis-lui de venir. Elle le quitte. La porte s'est ouverte. C'est le fils. Il ferme la porte. Émile est debout. Pierre s'approche de son père, qui touche sur sa poitrine quelque chose. Il sent sur sa chemise la croix. Pierre est décidé de lui dire ce qu'il pense de sa conduite. Mais Émile croit voir sur son visage, sur le visage de Pierre, le pardon et son amour. Il est ému encore par ce que vient de lui dire sa femme. Tout d'un coup, il tombe la tête en avant sur le bureau. Le fils apeuré s'approche, se penche et constate la mort. Quelques jours plus tard, en rangeant le bureau de son père, il trouve dans le tiroir le cahier. Les écrits de son père qui raconte ses années, son amour avec Patrick. À la dernière page, Patrick, je t'aime et personne ne prendra ta place. Mon fils, c'est autre chose, un autre amour, un amour qui devra lui aussi porter notre amour. Je l'éduquerai pour cela, je lui dirai notre histoire. Il sera celui qui devra continuer la chaîne pour qu'elle ne meure pas. Pour qu'elle ne meure pas. Pierre ne comprend pas et décide de lire le cahier. La 29e partie est la fin des conspirateurs. Les conspirateurs, 29 heures d'émission, 540 heures de préparation, 540 pages dactylographiées, 100 heures d'enregistrement, 5800 mètres de bandes magnétiques, enregistrées dans les studios de la CVAP. Production, mise en scène, scénario, Jean-Pierre Junier. Alors maintenant, comme d'habitude, pour finir ma semaine, il faut que je trouve à remplir le temps qui me reste. Et là, j'ai tout de même pas mal de temps. J'ai 38 minutes, 39 minutes même. Je voulais dire une chose, c'est que cette histoire, je l'ai enregistrée sur cassette il y a de cela plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans. Et je voulais, c'est pouvoir la passer à la radio, mais comme les cassettes, malheureusement, c'est fini. Alors j'ai été obligé, c'est de recopier ces émissions en mini-disque. Ça n'a pas été facile, il y a eu quelques petits trucs dont vous êtes rendu compte
que ce n'était pas parfait, mais enfin, ça a été fait. Je suis très content, c'est que j'ai pu faire cela, parce que cette histoire est une histoire qui me touche énormément, vraiment beaucoup. C'est une de mes histoires préférées. Avant d'écrire cette histoire, je n'avais fait, à part l'au-delà du commun, entre la lune et moi, et le plaisir, puis aussi, qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis, que des petites nouvelles. Puis ensuite, j'ai voulu recommencer à écrire une grande histoire, alors je me suis lancé là-dedans. Au début, c'était pas facile, parce que je n'avais plus l'habitude d'écrire des histoires aussi longues, mais j'y suis arrivé. Là, vous avez entendu 29 heures d'émission, mais c'est-à-dire 29 émissions en cassette, mais sur mini-disque, ça fait 32 mini-disques. Ça fait un peu plus. C'est à cause des génériques, etc. Cette histoire raconte les conspirateurs. Les conspirateurs, c'est des personnes qui nous entourent, des personnes, la société, tous ces gens qui nous entourent et qui nous forcent à vivre, à aimer des choses, qui nous dirigent dans notre vie d'une façon involontaire. Enfin, nous sommes dirigés d'une façon involontaire et malheureusement, nous aussi, nous sommes dirigés d'une façon involontaire. Nous dirigeons les gens aussi, nous, malheureusement. Et tout le monde est dirigé, et tout le monde dirige les autres. Même ceux qui, d'après leurs idées politiques, philosophiques ou autres, croient qu'ils ne sont pas dirigés, mais ils sont aussi dirigés, même les anarchistes. Un jeune qui rencontre un anarchiste est dirigé par cet anarchiste. On le guide vers les idées anarchistes. C'est pour tout pareil. Même pour les sentiments, l'amour, c'est la même chose. La société nous guide vers un amour standard ou un amour qui correspond à la mode, parce que même si nous aimons une personne d'une façon moins standard, mais c'est d'une façon mode, on nous pousse à aimer la personne d'une façon mode et pour la sexualité aussi. Il faut avoir des goûts sexuels d'une certaine façon, suivant la mode, et si on n'est pas d'accord avec ceci, on est obligé de suivre ces choses parce que ça fait partie de la mode. On est d'abord dirigé par l'éducation. L'éducation de la famille au début. Ensuite, on est dirigé par l'éducation de la société, c'est-à-dire l'école. Et puis, on est dirigé aussi par ses goûts, disons les goûts que la société veut vous pousser à avoir, la société, c'est-à-dire les autres, veulent vous pousser à avoir comme goût politique ou autre. Et puis aussi, malheureusement, ce qui est terrible, c'est aussi pour les sentiments. On est dirigé aussi pour les sentiments, pour l'amour. C'est pour ça que le premier amour touche beaucoup l'être humain, parce que le premier amour, il est toujours... On cherche toujours, la société cherche toujours à... Et contre ce premier amour, attaque ce premier amour. Parce que ce premier amour ne peut pas être, s'il n'est pas dans les règles, s'il n'est pas dans la mode. Donc on l'attaque, on fait tout pour détruire cet amour, ce premier amour. C'est pour ça qu'il touche beaucoup les personnes. C'est terrible tout ça. C'est terrible, et puis nous-mêmes, nous sommes dirigés. Nous dirigeons les autres, nous-mêmes dirigés, malgré soi, on dirige aussi les autres. Comme vous avez vu dans cette histoire, la personne toute sa vie est dirigée et petit à petit, lui aussi, malgré lui, dirige un peu les autres et rend malheureux les personnes qu'il aime. Il les rend malheureux et il devient plus ou moins égoïste comme tout le monde. Mais il s'en aperçoit, donc il ne va pas trop loin, le héros. Mais la plupart des gens, ou s'en aperçoivent pas, ou veulent aller plus loin. À notre époque, je parle des jeunes parce que les jeunes, c'est l'avenir, quoi. Les jeunes sont encore plus dirigés que les gens de notre génération parce qu'ils sont très pris par la mode. Il faut faire comme ça, il faut penser comme ça, il faut s'habiller comme ça, il faut aimer ceci, il faut aimer cela, autrement, si on n'aime pas ceci ou cela, si on ne fait pas ceci ou cela, eh ben, on est rejeté par les autres et ça n'est pas bon. Parce que cette génération-là que nous avons, c'est une génération qui vit au milieu des jeunes de leur âge. Il n'y a plus de mélange d'âge à notre époque, ce qui fait que ils ont tous le même âge, les jeunes se dirigent tous. Ils veulent tous se ressembler parce qu'ils ont peur, c'est d'être rejetés par les autres jeunes. Donc, ils veulent tous être pareils. Ils veulent tous aimer la même musique parce que s'ils n'aiment pas cette musique-là, ils paraissent ringards ou autres. Ils veulent tous s'habiller de la même façon, même si ça ne leur plaît pas. Etc., etc., et ils veulent tous avoir des rapports sexuels d'une certaine façon et tout. Ils deviennent aussi. Ils veulent être ressemblés aux autres, mais en même temps, ils deviennent égoïstes, parce qu'ils ne pensent qu'à eux, parce que les autres les forcent à ne penser qu'à eux. Alors, je crois que ces gens-là vont être encore plus. Ces jeunes vont être encore plus malheureux plus tard que les autres générations, même beaucoup plus malheureux, parce qu'il faut apprendre à respecter l'autre et il faut apprendre à respecter l'autre, ne pas le dédaigner et ne pas passer qu'à son plaisir et puis se dire que le temps passe et que l'on ne sera pas tout le temps toujours jeune. La jeunesse est une maladie qui passe. Malheureusement, il ne s'en rend pas vraiment compte. Alors, voilà, les jeunes sont dirigés par les jeunes. Ils sont plus dirigés par les personnes plus âgées. Ils sont dirigés par d'autres jeunes qui les forcent à aimer ceci ou cela. Ils ne s'en rendent pas compte. Et en même temps, à force de vouloir absolument faire partie d'un groupe jeune, ils sont tellement pris par ce genre de choses qu'ils en deviennent égoïstes et ne pensent à rien d'autre. Cette histoire, vous avez vu le héros, pour appuyer les traits, pour appuyer les traits, comme le tabou est encore extrêmement grand et le sera, je crois, toujours, parce que la société n'a pas mis de place pour ce type d'affection et de sexualité. Et d'ailleurs, comment mettre une place là-dedans? Mon héros a des tendances, homosexuelles et très jeune dès son enfance. Et ce genre de choses lui crée énormément d'ennuis, il le marque pour toute sa vie. Il est obligé, de souffrir. Il souffre à cause de ça parce que on l'empêche d'extérioriser son amour, il est obligé de cacher ses sentiments et on le force à vivre une vie normale, enfin une vie normale dans le sens de la société, c'est-à-dire en se mariant et en ayant des rapports sexuels avec une femme, alors que ce genre de choses ne l'intéresse absolument pas. On le force aussi à vivre ses penchants cachés, à vivre ses penchants cachés, à garder en lui-même ce premier amour qui a été très fort pour lui et qui était un amour extrêmement pur. Mais lui souffre énormément de ça, souffre énormément de ça, et malgré lui, il en devient lui aussi un peu égoïste. Bon, j'ai choisi que mon héros soit comme ça, mais il aurait pu être hétérosexuel, ou il aurait pu être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui veut rester pur du point de vue sexuel, ou quelqu'un qui aurait aimé être comme dans un de mes personnages, prêtre ou autre, ça aurait été la même chose. La société l'aurait fait du mal pour qu'il puisse ne pas extérioriser ce qu'il désirait vraiment faire de sa vie. Alors pour qu'il puisse oublier ses instincts, ses instincts sentimentaux et sexuels, pour qu'il puisse avoir dans la société la place que la famille voulait qu'il ait, on le force à ne plus avoir d'instinct comme ça, donc on le force à se marier, et puis aussi, on veut absolument c'est qu'il prenne la place du père dans l'entreprise. Et c'est surtout pour ça que l'on veut qu'il ait une vie, disons, normale aux yeux de la société, pour qu'il puisse prendre la place du père, pour qu'il puisse devenir et pour qu'il puisse devenir respectable, parce que pour prendre la place du père, il faut avoir une vie respectable. Et oui, une vie respectable pour parce qu'autrement, on ne peut pas avoir des responsabilités dans la société si on ne vit pas comme tout le monde. On risque d'être mal vu. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent très souvent, même pas que dans les familles, les grandes familles où il y a des histoires d'argent, des histoires de biens. On cherche vraiment à caser les enfants pour la continuité, pour préserver les biens, la fortune. Mais ça se passe aussi dans le monde ouvrier. Ce genre de choses se passe aussi dans le monde ouvrier, même chez les chômeurs, où on force les gens à être comme ça et pas autrement. Une personne qui ne ressemble pas aux gens de son milieu, c'est-à-dire de sa famille et aux gens qui l'entourent, risque d'être rejeté d'une façon terrible. C'est pour ça que la famille fait tout pour qu'il devienne, pour qu'il soit comme les autres et pour qu'il soit comme la famille est. C'est pour ça que chez les pauvres, lorsqu'un pauvre cherche à monter socialement, à devenir un autre, il ne faut pas croire que les autres pauvres soient fiers et aiment ça, bien au contraire. Ils se disent, ils nous dénigrent celui-là, il nous prend pour qui, il se prend pour qui celui-ci. Et on le rejette. Il est rejeté parce qu'il cherche à monter socialement. Ce n'est pas bien. est rejeté par la famille, qui pense que c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne les aime pas et qui les dénigre même, il est rejeté aussi par l'entourage, par les personnes, les voisins et tout. Les voisins et tout ça aiment bien que les gens qui les entourent soient comme eux, et s'ils apprennent que le pauvre monsieur un tel est maintenant à une bonne place, les gens le regardent mal, ils le dénigrent, parce qu'ils n'aiment pas que les personnes changent, pour ainsi dire, de personnage, et soient plus haut qu'eux. Il y a un peu de jalousie là-dedans. Voilà, les conspirateurs sont finis, l'histoire est finie. De la réécouter, cette histoire, ça m'a beaucoup... J'ai eu beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, parce que c'est une des histoires que j'aime le plus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai bien l'intention, c'est de la réécrire sur mon ordinateur et peut-être, je ne sais pas, l'envoyer quelque part pour la faire éditer. C'est pas pour une question d'argent, mais c'est parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup. Là, dans cette version, contrairement à la version que j'ai diffusée en cassette, je l'ai laissée intégralement. Je me suis dit, pouf, c'est idiot au fait de supprimer certaines choses, certaines petites scènes qui sont pas très... Enfin, c'est pas, ça risque pas beaucoup de choquer les gens à notre époque. On voit à la télévision des scènes encore beaucoup plus fortes, et même l'après-midi. Alors, on apprend aussi des histoires sexuelles aux enfants et tout ça. Donc, j'ai décidé de laisser en entier. Pour une autre histoire, c'était où j'ai eu beaucoup de soucis lorsque j'ai diffusé cette histoire. C'était « Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis ?» Alors là, c'était terrible parce qu'on m'a traité de tous les noms, etc., etc. Alors, j'ai fait une version, disons, en supprimant certains bouts de scène. Bon, je le regrette peut-être un peu, mais enfin, je ne pouvais pas faire autrement. Vous la réentendrez avec des scènes coupées. Je trouve que c'est bien dommage, surtout à notre époque. Là aussi, qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis? J'aimerais bien me faire rééditer. Alors j'hésite à mettre l'intégrale ou en coupant quelques petits bouts de scène. Mais comme ce sera un livre, peut-être est-ce que je n'aurai pas besoin de supprimer certaines scènes, parce qu'un livre, c'est tout de même pas la même chose qu'une émission, et puis les gens savent par avance ce que c'est. Tandis qu'une émission, on peut passer, on peut écouter par hasard l'émission et puis être plus ou moins choqué, mais je pense pas vraiment que ça puisse choquer à notre époque ce genre de passage. Bien entendu, ceux qui ont été le plus choqués, malheureusement, sont les moralistes et les moralistes de gauche qui n'ont pas supporté certaines choses. Je comprends pas. Ils sont de gauche, ils sont libres, ils se disent libres, ils sont contre la société, et en même temps, ils sont encore plus moralistes que les autres. C'est vraiment bizarre, mais enfin, c'est comme ça, quoi. On n'y peut rien. Pour ce qui est des conspirateurs, bon, j'ai eu aucune ennui, ça a passé. Bien entendu, lorsque j'ai supprimé deux bouts de scène, j'ai aussi était obligé de supprimer quelques scènes dans le l'histoire qui s'appelle Création intérieure, ou je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Oui, il me semble Création intérieure, ou les troubles de la création. Oui, là aussi j'étais obligé de supprimer un ou deux petits bouts de scène. Ça a passé la première fois. Je repasserai une seconde fois avec aussi les deux petits bouts de scène supprimés. Je trouve que c'est bien dommage de se censurer comme ça. C'est un peu stupide à notre époque de supprimer des choses, étant donné que... Surtout que ce que je supprime, c'est pas des choses, disons, d'idées politiques ou sociales. Ce sont simplement des choses d'ordre sexuel, c'est tout. D'ordre sexuel tout simple. Hein. Rien d'extraordinaire, je ne suis pas sad. Hein. D'ailleurs, je suis contre sad et je trouve dégoûtant que l'on mette sad au même niveau que les révolutionnaires ou les philosophes comme Voltaire, Rousseau ou Diderot. Tout ça tout à fait stupide. On oublie une chose, c'est que Sade a tout de même fait des choses horribles, dégoûtantes vis-à-vis des femmes. Il en a même empoisonné. Je trouve ça vraiment ignoble ce qu'il a fait. Maintenant, on en fait un grand homme. Moi, j'ai jamais réussi à lire un livre de Sade. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout ces histoires. Je trouve ça tout à fait ridicule et sans intérêt, en tout cas pour moi. Mais ça n'est pas du tout un philosophe, c'est un obsédé sexuel, tout simplement. Un obsédé sexuel qui aime la perversité. Une perversité très dangereuse. Mais bon, c'est à la mode depuis... Sade est à la mode depuis, disons, mai 68, mais on aurait pu trouver quelqu'un d'autre comme exemple pour la liberté sexuelle. Je ne comprends pas que des femmes acceptent de ce genre de... acceptent que l'on idolâtre ce genre de personnes. Au nom des libertés des femmes, je trouve ça un peu... Enfin, les femmes auraient dû intervenir et dire que, d'accord, on peut lire ça, c'est pas interdit, mais en faire un révolutionnaire là-dedans pour la liberté sexuelle, au secours. Hein. Voilà, je crois que j'ai bientôt fini. Donc, la semaine prochaine, ce sera une nouvelle histoire. Peut-être, lorsque vous allez écouter ceci, malheureusement, comme j'ai énormément d'histoires d'avance, je ne serai peut-être plus de ce monde. Je ne sais pas qui passera mes histoires ou si mes histoires seront passées. Là, je ne peux pas dire. Ce sera un grand mystère. Et puis, il m'arrive aussi quelque chose en 2010. Peut-être qu'une des radios où je diffuse mon histoire va s'arrêter. Eh oui, c'est triste, c'est très triste, surtout que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour cette radio et beaucoup de choses en avance. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais faire de tout ça. Heureusement que maintenant, j'ai Arte Radio qui me diffuse mes émissions. C'est audioblog.arteradio.com/écran-radiophonique. Si ça vous intéresse d'écouter mes émissions là-dessus, à moins que aussi à cette époque Arte Radio n'existe plus, on ne sait pas. Ou que mes émissions ne peuvent pas être diffusées sur Internet parce que les ordinateurs auront changé, Internet aussi, on ne sait pas aussi. Les technologies vont tellement, tellement vite que, ma foi, on ne peut pas savoir l'avenir là, en 2010, au mois de avril 2010, ils ont prévu c'est de faire une télévision, la télévision en 3D, c'est-à-dire en relief. Les gens sont à peine remis pour la télévision terrestre numérique. Alors, on leur lance ça. Il n'y a pas de programme pour ce genre d'émission. Il y aura peut-être une heure ou deux en sport et encore, et un film ou deux s'ils en trouvent. Il n'y a pas de DVD Blu-ray pour les 3D, et en plus il faudrait un magnétoscope. Alors en plus il faut un téléviseur haute définition, un magnétoscope haute définition et 3D, un nouveau magnétoscope. Puis il faut aussi c'est que votre téléviseur soit réglé et sur un canal à très haut débit pour le 3D. Donc ils lancent ces téléviseurs-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Bon, les gens ne sont pas très haut débit 3D, pour le 3D. Les chaînes de télévision n'ont pas de programme en 3D. Le cinéma commence à peine à faire quelques films en 3D. Il paraît-il qu'il y en aura une trentaine en Amérique qui vont se faire, mais d'ici là. Et il n'y a pas de magnétoscope en 3D ni de DVD en 3D. Il lance ce genre de choses comme ça, pour rien du tout. Voilà, j'ai fini. Peut-être, si Dieu le veut, la semaine prochaine, une autre série d'histoires. Au revoir. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.